La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair.
Tout le monde a plus ou moins entendu parler de ce mot attribué à Hubert Reeves. Nous sommes des poussières d'étoiles. Cela signifie que nos corps sont formés d'atomes dont les noyaux atomiques, existaient déjà dans les étoiles avant la naissance du Soleil et de la Terre. Ces noyaux d'atomes se sont réellement formés à l'intérieur des étoiles, grâce aux réactions nucléaires qui s'y produisent. Mais il n'y a pas que nous qui sommes faits d'atomes. C'est le cas de la Terre elle-même tout entière et de tout ce qui nous entoure. Et dans notre civilisation technologique contemporaine, certains de ces atomes sont devenus stratégiques. On appelle ainsi tous les éléments atomiques qui sont devenus nécessaires à notre fonctionnement sociétal et dont nous ne pouvons plus nous passer. On peut penser au lithium de nos batteries, par exemple, et à tous les métaux qui entrent dans la conception d'objets, comme nos téléphones portables et bien d'autres encore. Tous ces atomes sont présents sur Terre, en quantité limitée. Ils sont sous forme de composés moléculaires, des sels par exemple, ou des minerais, qui peuvent être très complexes et qui nécessitent des processus spéciaux d'extraction. L'étude de ces métaux stratégiques sur Terre est très intéressante pour plusieurs domaines, scientifiques, sociétals, politiques. On peut étudier d'où ils viennent, dans quelles circonstances les étoiles ont pu les fabriquer, comment ils se sont solidifiés au moment de la formation de la Terre, comment ils se sont associés à d'autres éléments pour former des minerais, à quel endroit ils se sont déposés, comment ils sont extraits, à quoi ils servent dans notre vie quotidienne et quels sont les enjeux politiques associés. J'ai avec moi pour parler de tout cela Alexandre Martiel, qui est journaliste et qui navigue dans les sphères politiques depuis de nombreuses années, comme chef de cabinet auprès de maires de grandes villes, comme attaché parlementaire et autres fonctions importantes. Mais ce n'est pas pour ses activités politiques que j'ai invité Alexandre. C'est parce qu'il se passionne depuis au moins 10 ans sur ce sujet des métaux stratégiques, sur lesquels il a accumulé énormément d'informations de toutes sortes. Il a récupéré des morceaux de minerais correspondant à la plupart des éléments du tableau bien connu de Mendeleïev. Il a créé ce qu'il appelle une matériothèque, a rencontré de très nombreuses entreprises et laboratoires en France et à l'étranger. Et l'étude détaillée de ces métaux stratégiques est évidemment menée en relation avec la transition énergétique. Bonjour Alexandre.
Bonjour Sylvie.
Tu t'es donc construit un savoir considérable sur ce sujet des métaux stratégiques. Tu en parles dans les écoles, tu donnes des conférences, tu es devenu consultant, formateur, tu as écrit des livres. Tout ça pour attirer l'attention de l'ensemble des êtres humains sur l'importance de ces métaux et les problèmes sous-jacents, sociétaux, environnementaux et géopolitiques. Dis-nous d'abord, si tu veux bien, comment tu as construit cette super collection d'éléments stratégiques et pourquoi tu es allé rencontrer des ingénieurs, des chercheurs, des directeurs scientifiques de très nombreuses entreprises et de nombreux laboratoires scientifiques.
Ça a démarré il y a 10 ans. Ça a démarré par un exercice de style d'abord. D'abord, je suis retombé sur le tableau périodique. On a tous croisé sur les bancs de l'école le tableau périodique.
Ce tableau périodique, peut-être que c'est les gens qui s'en souviennent pas, on peut rappeler que ça rassemble tous les éléments chimiques qui existent. Et pour des raisons chimiques, justement, de comportement, ils sont dans des colonnes et des lignes. C'est ce qu'on appelle le tableau de Mendeleïev.
Le tableau de Mendeleïev, 118 éléments. Et j'ai eu à dessein de rassembler tous ces éléments. Alors, de les rassembler d'abord dans leurs applications physiques, de les rassembler sur leur forme métallique et également la recherche des minerais correspondant à chacun de ces atomes. Et c'est à partir de là que les choses ont vraiment commencé. C'est-à-dire que je suis passé d'un exercice de style à une enquête approfondie sur les atomes et les applications dans le monde.
Il faut dire que quand la Terre s'est solidifiée, puisque moi je parle un petit peu à un niveau astrophysique, quand la Terre s'est solidifiée, tous ces éléments chimiques, ils ne sont pas restés à l'état pur. C'est ça. Ils se sont associés...
Rarement.
La plupart du temps, ils se sont associés à d'autres éléments pour former justement ce qu'on appelle des minerais. Et donc, c'est tout un travail d'extraire les éléments individuels à partir des minerais.
C'est tout le travail, toute la difficulté à la fois de l'extraction, encore que celle-ci est peut-être la moins complexe, l'extraction à proprement parler, mais c'est surtout le raffinage, la séparation de ces éléments à l'intérieur même d'un minerai, et qui d'ailleurs donne un avantage concurrentiel à certains pays par rapport à d'autres, parce que parfois on peut ne pas avoir les minerais, mais avoir la capacité industrielle, c'est le cas pour les terres rares notamment, d'aller séparer dans une roche qui ressemble à rien quasiment, mais où on a tous ces éléments-là qui sont réunis.
C'est pour ça que tu es allé voir des entreprises. Ce sont des entreprises qui travaillent à extraire des éléments, ou quelles sortes d'entreprises et quelles sortes de laboratoires tu es allé voir?
Alors, si je puis me permettre, tous les univers, parce que d'abord j'ai été sur tous les secteurs d'activité stratégiques, pour le coup stratégiques, aussi bien ceux bien sûr de l'énergie que ceux du nucléaire, que ceux du militaire, que ceux de l'électronique. Aujourd'hui, je prépare une conférence sur l'intelligence artificielle et les métaux stratégiques. Donc, j'ai été à la rencontre un peu de tous les secteurs d'activité et de l'amont à l'aval, si j'ose dire, c'est-à-dire à la fois de l'industrie minière jusqu'aux entreprises qui vont utiliser tel ou tel élément dans leur technologie. Donc ce qui m'amène aux entreprises, pour être très clair, et ce qui m'amène au laboratoire, c'est ce tableau périodique qui me sert quotidiennement de veille stratégique à l'échelle mondiale. L'objectif dans ma démarche, c'est de faire toucher du doigt la réalité, mais également d'aller voir ce qui se cache derrière l'objet ou le matériau, c'est-à-dire concrètement quels sont les atomes qui le constituent.
Alors ce que je trouve intéressant pour les gens, c'est de leur montrer de quelle manière dans des objets qu'ils utilisent en permanence, il y a des métaux, éventuellement des métaux un peu rares, enfin difficiles à trouver sur la Terre, difficiles peut-être à extraire, et dont ils ont absolument besoin. S'ils n'avaient pas ça, disons absolument besoin dans notre fonctionnement sociétal actuel. Alors, on peut parler du téléphone portable, peut-être.
C'est le plus connu et le plus facile, si j'ose dire. On peut parler véritablement de vitamines. C'est le terme qui est utilisé par les experts.
Vitamines.
C'est ce qui permet à votre téléphone au téléphone portable, ce qui permet au téléphone portable d'avoir toutes les fonctionnalités qu'on utilise au quotidien, aussi bien l'écran produit.
L'écran tactile.
Alors l'écran tactile. Par exemple, derrière l'écran tactile, il y a un conducteur transparent qu'on utilise notamment l'indium, qui est un élément stratégique qui permet de créer ce qu'on appelle exactement une molécule d'ITO, indium titane oxyde, et qui permet donc d'aller détecter passage du doigt. Par exemple, c'est un exemple classique qu'on retrouve dans tous les écrans et qui a fait exploser la demande évidemment d'indium dans le monde entier.
C'est un phénomène électrique ?
C'est un phénomène électrique, c'est un phénomène qui est connu depuis la fin du 19e siècle. Et les recherches ont permis d'avancer notamment dans les années 50 et qui aujourd'hui est un matériau très courant dans la conduction qu'on va qualifier de transparente, avec quelques concurrences aujourd'hui, notamment avec le graphène et d'autres matériaux. Mais voilà, on pourrait parler longuement de ces sujets-là.
Donc de l'indium, si j'ai bien retenu, dans les téléphones portables, dans l'écran. Et tu parlais de... Qu'est-ce que tu voulais dire par vitamine ?
Alors c'est vitamine parce que d'abord c'est en très petite quantité qu'on les trouve, c'est-à-dire que quand on pèse un téléphone portable, la fameuse vitamine ne représente que quelques 0,1% du poids d'un téléphone portable. Le reste, c'est pour l'essentiel de l'aluminium, du silicium pour l'écran, de l'aluminium pour le cadre, d'autres éléments assez lourds, notamment la batterie avec le lithium.
Mais, j'ai toujours pas bien compris, excuse-moi, ce que tu appelles vitamine par rapport à
quelles éléments, une soixantaine d'éléments, rien que ça. On a parlé de l'indium, j'en ai oublié 60 autres. Ah. Donc ce sont ces 60 vitamines, si j'ose dire, qui sont en très petite quantité, je l'ai précisé, 0,1% du poids d'un téléphone portable, donc très petite quantité, mais indispensable à toutes les fonctionnalités d'un téléphone portable tel qu'on l'utilise au quotidien. Alors ça, c'est le premier élément qui montre que ce sont des vitamines, qu'elles sont en petite quantité et qu'elles sont extrêmement stratégiques et dopantes, si j'ose dire. Le terme d'ailleurs est utilisé dans le monde de l'électronique, le dopage. Mais également, on les retrouve en très petite quantité, à des faibles teneurs, selon l'expression, dans les minerais. En clair, à la tonne de roche, souvent elles ne sont qu'à des quantités de quelques grammes, ce qui fait évidemment l'élément de métaux rares, terres rares, souvent parce que c'est toute petite quantité. Donc des petites quantités et des vitamines indispensables dans nos technologies du quotidien.
Alors si je comprends bien, quand on a un minerai, bon d'abord le minerai, il faut savoir que c'est un minerai intéressant, hein, parce que comme tu disais, souvent des pierres comme les autres, presque.
C'est la différence entre minerai et minéral. Quand on est collectionneur de minéraux, on aime les belles cristallisations, on aime les belles couleurs. Mmh. Quand on est passionné par les minerais comme je le suis, on n'aime pas les belles couleurs. On appelle ça même, certains de mes copains dans certains laboratoires de géologie parlent de minerais moches.
C'est ceux-là qui sont importants pour
c'est ceux-là qui conditionnent
l'économie, pour tout ça. Oui.
C'est ceux-là qui conditionnent conditions de l'histoire de l'humanité. Tu l'as bien dit, tout a démarré dans les étoiles, mais très vite, les hommes sur Terre se sont appropriés ces minerais. On en a extrait les premiers métaux, c'est les fameux grands âges de l'humanité, l'âge de fer, l'âge de bronze, voilà, l'âge de l'acier au 19e siècle. Et très vite, tout s'est accéléré au 20e siècle, notamment avec l'utilisation de l'ensemble des éléments du tableau périodique. On n'en utilisait qu'une dizaine jusqu'au début du 20e siècle, et milieu du 20e siècle jusqu'à aujourd'hui, maintenant, on utilise quasi la totalité des éléments du tableau périodique.
Mais alors, quand on a un minerai, donc ça veut dire qu'il y a là-dedans toutes sortes d'éléments, associés à d'autres éléments pour faire des molécules. Et parmi tous ces éléments-là, il y en a quelques-uns qui sont en très petite quantité, tu dis 0,1% ou quelque chose comme ça, qui sont ceux qui sont importants pour la vie et tout.
Alors pour la technologie et pour nos grands desseins écologiques qui parfois ont des impacts catastrophiques à l'échelle mondiale. Exemple type, c'est celui du pot catalytique.
Le pot catalytique
D'une voiture, tout à fait, pour assurer une dépollution, si j'ose dire, des gaz d'échappement. Bien, ce pot catalytique est une alumine, donc une céramique, donc on a déjà l'aluminium qui apparaît déjà, mais surtout, c'est une alumine, donc un nid d'abeille, comme on dit, qui est imprégné de platinoïdes. De platinoïdes, c'est-à-dire, on connaît ces mots, platine, rhodium peut-être pour ceux qui achètent de très beaux bijoux, ruthénium et palladium et autres platinoïdes du genre. Eh bien, ces platines, ces éléments platinoïdes sont à un moment donné extraits de minerais, en effet, où le pourcentage, je prononce cet exemple-là parce qu'à dessein, je le choisis, un pot catalytique, c'est à peu près 4 grammes de platinoïdes en moyenne, une tonne de roche, 12 grammes. Donc, avec une tonne de roche, on peut imprégner seulement 4 pots catalytiques. Donc, c'est dire combien la teneur, comme tu disais très justement, dans ces roches, est extrêmement faible, mais extrêmement stratégique. Ces éléments sont extrêmement stratégiques tout en étant produits de manière très, très minimale. On ne peut pas comparer, par exemple, le monde des terres rares, où on produit à l'échelle mondiale 280 000 tonnes, avec le monde du fer, où on produit plusieurs milliards de tonnes, ou le cuivre, où on produit plusieurs millions de tonnes. On doit être autour de 30 millions de tonnes de mémoire. Voilà, ou l'aluminium, 60 et quelques millions de tonnes, à l'échelle mondiale, évidemment.
Eh ben c'est passionnant, on arrive à la fin de l'émission, donc on va continuer la semaine prochaine. On a encore beaucoup de choses à raconter. Donc merci Alexandre, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, merci Sylvie.